BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains contiennent une fraction de cet avenir avec elles, les cryptos. Rendez-vous dédié aux cryptos, c'est chaque vendredi, 16h35-36 sur BFM Business, les pros des cryptos. Ils sont avec nous. Claire Balva, bonjour Claire. On est ravis de vous retrouver, experte crypto indépendante. Owen Simonin, salut Owen.
Ravi bonjour.
Également de vous retrouver, sa chaîne YouTube Asher, et il est à la tête de Meria, ex Just Mining, maintenant ça s'appelle Meria, M-E-R-I-A. Et Vincent Gann nous accompagne également, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume, ravi bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver Vincent. Alors on le disait avec notre expert précédent, la semaine a été chargée, instructive du côté des marchés financiers après les décisions de politique monétaire des banques centrales. Est-ce qu'on peut aussi en tirer des leçons du côté des cryptos, tirer des leçons de cette semaine chargée d'un point de vue monétaire, Vincent?
Écoutez, cher Guillaume, il n'y a pas grand-chose de positif cette semaine sur le plan fondamental pour le marché crypto, ni sur le plan technique, mais ça, j'imagine que ce sera votre seconde question. Alors oui, brièvement, mais vous en parlez régulièrement sur votre antenne, les banques centrales ne veulent pas de rallye de Noël. Alors, elles n'en veulent pas pour le marché action, elles n'en veulent certainement pas, ou en tout cas encore moins, pour le marché des crypto-monnaies. Elles veulent briser l'inflation au risque de déclencher une récession, ce qui a déclenché des mouvements très importants sur les autres classes d'actifs qui, alors, avaient, avant la CRSTX, un impact en termes de corrélation sur le marché crypto. Vous savez, c'est dommage. On vient de conclure cette semaine 2 mois de hausse du marché action. Vous en avez parlé à l'instant avec votre précédent intervenant. On vient de terminer cette semaine 2 mois et demi de baisse du dollar US. Dans le monde d'avant FTX, le marché crypto, le cours du Bitcoin en aurait bénéficié. Bon, bien là, de toute façon, il ne peut plus en bénéficier. Alors, c'est aussi une semaine, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que le marché crypto est englué dans ses propres problèmes. L'on pensait avoir voir le bout du tunnel quant à la défiance vis-à-vis des plateformes centralisées. Cette semaine, c'est quand même l'argument numéro un, la fameuse preuve de réserve qui était censée être l'étape numéro un d'un audit comptable et financier réel à venir, qui tourne en fait en ridicule, en tout cas qui fait un flop. Et puis pour rien arranger, aujourd'hui, ce sont les trois sorcières, ça crée de la volatilité. Donc même en creusant, même en cherchant un peu, on a quand même du mal à trouver un petit rayon de soleil fondamental cette semaine pour le marché crypto.
La volatilité justement de la semaine, est-ce que cette volatilité permet d'y voir quand même plus clair sur le prochain décalage de prix possible du Bitcoin, Vincent?
Oui, alors excellente question. Alors déjà, on a un mini décalage cette semaine. Le marché a testé les 18 500 dollars avec la réserve fédérale mercredi. Il a rejeté, ce qui confirme que c'est la frontière technique en dessous duquel le bear market, le marché baissier, bien continue de se déployer. Ce marché baissier qui a commencé alors soit au printemps 2021, soit en novembre 2021. Ça dépend de la lecture que l'on a. Bon, en fait, tous les chartistes connaissent ce niveau des 18 000, 19 000 dollars. Je ne vais pas redonner les arguments habituels. Ce que je peux par contre vous préciser, ça montre à quel point c'est un niveau important. Et tant qu'on est en dessous, c'est comme un couvercle en béton armé. Lorsqu'on fait l'analyse dite on-chain, donc concrètement l'analyse des données du réseau Bitcoin, ce que l'on découvre maintenant, c'est que le prix des 18 000 dollars, c'est là où on retrouve le plus d'acquéreurs Bitcoin. Lorsqu'on regarde la distribution prix des acquéreurs Bitcoin, c'est vraiment là où ils sont massés, 18 000, 19 000 dollars. Et donc, ce serait un danger de s'en éloigner un peu trop par le bas. Donc, tant qu'on est en dessous, la pression et la fébrilité restent présentes.
Et l'on rappelle à ceux qui nous suivent de n'investir en crypto, pour ceux qui souhaitent le faire, que l'argent dont ils n'ont pas besoin, évidemment. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Gann nous analyse. Oui, enfin, peut-être nous analysez-vous aussi, d'ailleurs, Vincent. Je ne sais pas, vous n'analysez pas que les cryptos.
Moi,
vous
nous
analysez
aussi. Je suis toujours ravi de vous retrouver chaque vendredi.
Eh bien, c'est pareil, réciproquement. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir accompagnés. On vous souhaite une bonne fin d'année. Nous, on analyse l'écosystème crypto également au-delà des cours des différentes crypto-monnaies. Cette semaine, encore beaucoup d'actualité. Binance a à son tour entraîné une forme de peur dans l'écosystème et dans la communauté crypto. D'où les craintes autour de Binance sont-elles venues?
Alors clairement, mauvaise semaine pour Binance, puisqu'on a eu déjà en début de semaine un article de Reuters qui reparlait de l'enquête pour blanchiment d'argent dont Binance fait l'objet aux États-Unis et qui évoquait cette fois la possibilité de poursuites pénales pour certains dirigeants, notamment le patron CZ. Et donc forcément, ça a fait grand bruit. On a vu d'ailleurs derrière une chute de quelques pourcents du token de Binance, le BNB. Donc forcément, ça a ravivé les craintes, même si Binance a tout de suite essayé de faire des communications rassurantes sur le sujet. On a eu ensuite la suspension des retraits possibles en USDC, vous savez, ce stablecoin dollar qui est largement utilisé. Et donc donc les utilisateurs qui essayent depuis quelques jours désormais de retirer leurs tokens n'ont pas pu pendant un certain temps retirer ces fameux USDC. Alors Binance l'a expliqué que c'était dû à une volonté de récupérer plus d'USDC, de swapper des tokens pour avoir la liquidité suffisante pour ces utilisateurs-là. Et puis on a eu enfin le rapport de Mazar qui a fait beaucoup de bruit, qui a été assez critiqué. Il faut savoir que depuis l'affaire FTX, on fait face à un grand contexte de méfiance envers les plateformes d'échange qui essayent de rassurer leurs investisseurs. Et donc Binance avait publié ce qu'ils appellent la preuve de réserve avec un rapport du cabinet Mazars. Alors il faut bien voir que ce rapport, c'est pas un rapport d'audit au sens financier, comptable. C'est ce qu'on appelle un rapport de procédure convenue. Donc c'est un périmètre assez limité. C'est un rapport qui va aller vérifier ce que le client demande de vérifier. Donc en l'occurrence, qu'il y a bien, par exemple, des crypto-monnaies sur telle adresse et que telle adresse est bien détenue par telle entreprise, en l'occurrence Binance. Donc c'est typiquement ce genre de rapport qu'on retrouve aussi sur les stablecoins pour vérifier qu'il y a bien des réserves en face d'un stablecoin dollar ou d'un stablecoin euro. Donc c'est un rapport qui a un périmètre limité, qui ne va pas du tout aller vérifier l'ensemble de l'entreprise, qui ne va pas aller vérifier le niveau des dettes, qui ne va pas aller vérifier si l'entreprise a bien des procédures de contrôle interne solides. Et donc forcément, pour une entreprise de la taille de Binance, eh bien, ce type de rapport, il n'est pas du tout suffisant pour rassurer les investisseurs, et ça a d'ailleurs été largement critiqué par le patron de Kraken, par exemple, ou par John Redstart, qui est un ancien régulateur de la SEC, et qui ont tous les deux parlé de red flag, pour dire que finalement, le fait que Binance n'arrive pas à produire de rapport plus solide que celui-ci, c'était assez alarmant. Alors du côté de Binance, on réagit en disant que les entreprises d'audit ne savent pas auditer des plateformes d'échange. Et puis du côté de l'entreprise Mazars, forcément, c'est très compliqué en termes de réputation. Et donc on a une réaction assez radicale qui est de dire on arrête désormais de collaborer avec des entreprises du secteur crypto.
Et donc des retraits qu'on a vus en début de semaine sur Binance, en effet. Est-ce que cette peur qui s'est manifestée, Owen, vous a semblé particulièrement proportionnée, justifiée ?
À partir du moment où l'un des plus gros exchanges au monde a mis des messages publics en disant à ses utilisateurs « Ne vous inquiétez pas, nous procédons à tous les retraits des utilisateurs et nous continuerons à le faire demain. » Et 24 à 48 heures après, la plateforme FTX est tombée avec les fonds de ses utilisateurs, il est normal qu'il y ait des mouvements de panique, quoi qu'il arrive. Puisque une parole n'ayant plus de valeur, à ce moment-là, on pourrait partir du fait que tous les autres exchanges pourraient faire exactement les mêmes promesses, avec évidemment les mêmes faiblesses et du coup avoir les mêmes problèmes in fine. Voilà pourquoi tout mouvement de panique dans cette crise de confiance globale va avoir une ampleur assez énorme. La deuxième chose à savoir, c'est également ce qui s'est passé sur les stablecoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, pour le coup, le moindre petit blocage, c'est-à-dire que Binance a coupé pendant quelques heures les retraits des stablecoins, notamment l'USDC, les gens ont paniqué. Les gens se sont dit, OK, une première crypto-monnaie que l'on ne peut plus retirer, il va donc y avoir d'autres crypto-monnaies derrière, et pourquoi pas exactement avoir le même scénario qu'FTX. En tout cas, c'est ce que les gens ont eu peur. En l'occurrence, CZ s'est expliqué sur les réseaux. Binance l'a expliqué il y a quelques temps, tous les stablecoins sont changés au stablecoin BUSD, celui de Binance. Et donc naturellement, quand un stablecoin est déposé comme de l'USDC, le stablecoin de Circle, il faut rendre ce stablecoin contre des dollars, utiliser ces dollars contre le provider du stablecoin de Binance, et donc on est obligé de passer par des banques. Et les banques vont demander 24, 48 et des fois 72 heures. D'où le délai, mais évidemment, ça a été très rapidement réactivé sur la plateforme. Et à peine on a oublié cette histoire, il y a eu l'affaire de Mazars. Alors en l'occurrence, c'est Binance qui a communiqué au début, pour expliquer que Mazars, avec qui ils étaient en train d'avancer sur de l'audit, se retirait, non pas seulement de Binance, mais également de KuCoin ou encore de Crypto.com, qui sont des gros exchanges qui travaillaient avec Mazars sur de l'audit. Et pour le coup, j'ai essayé de gratter quelques informations qui viennent de l'intérieur de Binance sur cette histoire. Binance explique tout simplement qu'ils ont déjà contacté tous les Big Four et qu'ils essayent également et qu'ils continuent à rechercher quelqu'un pour pouvoir auditer de façon externe les différentes documentations et les différentes preuves qu'ils fournissent. De la même façon, ils expliquent qu'il y a déjà énormément de data disponible on-chain pour vérifier les stocks que Binance annonce avoir. Le problème, c'est plutôt pour corroborer. C'est bien beau de dire on a X milliards de stocks, mais il faut prouver que l'on a bel et bien X milliards de dettes à ses clients. C'est ce chiffre-là qui doit être prouvé et qui donc n'a de valeur que si c'est un auditeur externe. Sinon, Binance, quelle que soit leur bonne foi, ils ne peuvent pas prouver et donner un document suffisamment fiable pour rassurer les utilisateurs. En attendant, ils ont déjà fourni quelques informations, un pseudo proof of reserve, mais qui, selon pour beaucoup, n'a pas assez de valeur. Également, un arbre de Merkel qui permet aux utilisateurs d'avoir de la visibilité sur tout ça. Maintenant, ce qu'il faut, et c'est la grosse recherche que Binance a, c'est un auditeur externe qui va venir corroborer cette histoire entre les fonds détenus et également l'annonce qu'a faite Binance. Ils ne sont pas surpris et ils vont annoncer, continuer toujours dans plus de transparence et essayer de fournir des documents qui rassurent encore plus les utilisateurs, même s'ils le précisent. Il y a eu 6 milliards de dollars de retrait entre le 12 et le 14 décembre. Et c'est Binance qui l'annonce. Et comme ils le disent, la meilleure preuve de solvabilité qu'ils peuvent avoir, c'est de continuer à procéder au retrait des utilisateurs, aussi violent soit-il.
Et qui se jettera à l'eau dans l'univers de l'audit pour accepter d'auditer les plateformes d'exchange dans la mesure où toutes les informations ne sont peut-être pas facilement accessibles? Enfin, là-dessus, Claire, on peut se dire, voilà, Mazars qui apparemment se retire. C'est pas encore officiel d'ailleurs, c'est Binance qui nous dit que Mazars se retire de ses engagements vis-à-vis de ses clients dans l'univers crypto parce que, manifestement, compliqué d'avoir une vision complète de l'état financier de ses acteurs. Est-ce que d'autres pourraient se jeter à l'eau et dire, ok, j'ai les épaules assez larges, j'ai suffisamment de visibilité pour aller, en effet, tenter un audit sur l'une des plateformes d'exchange disponibles pour le public?
Alors c'est compliqué parce qu'un audit, un vrai audit, hein, au sens comptable et financier, au sens commissariat au compte, ça engage votre responsabilité. Donc il faut que vous soyez quand même assez serein sur les clients que vous allez prendre quand vous allez auditer des entreprises. C'est d'autant plus compliqué que la crypto, c'est un secteur nouveau. Et donc pour les entreprises d'audit qui ont certes une grande expérience dans l'audit financier classique, il faut potentiellement de nouveaux outils, il faut une expertise qu'elles n'ont pas forcément en interne partout dans le monde. Et donc ça nécessite pour ces entreprises-là de se moderniser et peut-être parfois aussi de prendre un risque. Mais c'est ça qui est très compliqué quand vous êtes dans une entreprise d'audit et que certains clients viennent vous voir et que vous ne maîtrisez pas complètement leur modèle économique, c'est de vous dire, bah, est-ce que je suis capable d'évaluer vraiment le risque que je prends en acceptant ces clients-là, parce que je peux tomber sur une plateforme d'échange qui effectivement est rigoureuse et avec qui ça se passe très bien, mais je peux aussi parfois dans la crypto tomber avec des acteurs qui ont potentiellement fait n'importe quoi, qui n'ont pas de compte en banque, souvenez-vous d'FTX. Et donc c'est pas évident pour ces entreprises-là d'évaluer le niveau de risque qu'elles prennent. Et donc parfois ça conduit à des réactions assez radicales qui sont de se dire plus de crypto.
Owen?
De la même chose, il y a une différence entre la preuve de réserve qui prouve qu'une plateforme a les crypto-monnaies qu'elle doit à ses clients et également la preuve de solvabilité. Il y a un risque naturel pour tous ces auditeurs parce que s'ils font un audit, que ce soit sur une preuve de réserve ou sur une preuve de solvabilité d'un exchange et que derrière il y a une faillite ou qu'il y a une affaire comme FTX, ça va remettre bien plus en cause puisqu'il y a un vrai risque de réputation pour l'auditeur qui aura pris cette responsabilité. Évidemment, c'est un marché, ce sont des acteurs qui ont beaucoup d'argent, donc naturellement, un acteur finira par se positionner, et Binance le cherche, pour le coup, ainsi que d'autres acteurs. Mais pour l'instant, le risque semble, en tout cas, c'est la décision de Mazars, pas suffisamment intéressant pour le travail et pour ce que ça peut représenter d'un point de vue pécunier.
Et pendant ce temps, en France, le Sénat a déposé ces derniers jours un amendement visant à réguler les cryptos. Owen, quels sont les points les plus importants à retenir de cet amendement sénatorial?
Le point le plus important, c'est réellement l'obligation de s'agréer en tant que PSAN. Vous le savez, PSAN, prestataire de services d'actifs numériques, est un enregistrement qui peut se faire à deux niveaux. C'est-à-dire, premièrement, on s'enregistre auprès de l'AMF en expliquant et en détaillant l'intégralité de ses process, mais ensuite, on peut également demander une agrémentation. Pour l'instant, personne n'est agrémenté. Le problème de cette agrémentation, c'est que pour pouvoir demander cette agrémentation, il faut remplir certaines conditions. Conditions qui sont très complexes, voire inatteignables parfois. Je donne un exemple. On a besoin d'une RC Pro, d'accord, qui viendrait couvrir l'activité et les différents services que l'on peut proposer dans le monde de la crypto-monnaie. Or, actuellement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour s'agréer PSAN, il faut une RC Pro qui n'existe pas. Et donc, il n'est pas possible d'aller à cette étape. Et ce n'est qu'un des différents facteurs. Le deuxième, c'est également le fait l'autorité des marchés financiers est débordée. C'est-à-dire qu'il faudrait bien plus d'outils, que ce soit pour les acteurs qui veulent s'agrémenter, mais également bien plus de ressources aux régulateurs pour permettre justement à des acteurs de devenir agrémentés et de demander la fameuse agrémentation PSAN. En plus de ça, il s'agit d'une deadline proposée par le Sénat, évidemment, au 1er octobre, ce qui laisse très peu de temps et ce qui rend l'opération presque impossible à réaliser. Et pour finir, seuls les acteurs déjà enregistrés PSAN ou déjà en France seraient affectés. toutes les autres plateformes à l'international qui ne sont même pas enregistrées PSAN ne seraient pas concernées et les utilisateurs français continueraient à utiliser leur service. Ça ne sanctionnerait donc que les acteurs français, ceux qui jouent déjà le jeu. Une petite particularité, là où ça nous arrive souvent de remettre en cause certaines décisions politiques, il faut quand même noter que le gouvernement, représenté par notre ministre du Numérique Jean-Noël Barrot, a pris la parole et s'est positionné contre cette obligation d'agrémentation. Il faut savoir que la réglementation MiCA va demander justement plus de rigueur et plus d'obligations vis-à-vis des acteurs. Le fait d'obliger l'agrémentation PSAN pour le mois d'octobre, c'est simplement pour essayer de gagner un petit peu de temps. En l'occurrence, ça ne semble pas faisable et ça risque de mettre en danger bien plus de choses dans l'écosystème puisque ça peut évidemment garantir comme sécurité étant donné que la plupart des services consultés ne sont pas que des services français par les Français mais bel et bien des services à l'international. Sans compter que ça demande beaucoup de ressources. Donc pour certains gros acteurs, c'est tout à fait envisageable. Pour les plus petites entreprises qui venaient d'être enregistrées PSAN, c'est tout simplement pas viable économiquement de devenir agrémenté. En partant du fait qu'on arrive à garder une RC Pro ou les fonds propres nécessaires.
Donc votre message aux décideurs face à cet amendement sénatorial, c'est attention, ne confondez surtout pas vitesse et précipitation. Et il est toujours intéressant d'ailleurs de comparer l'Europe et les États-Unis en la matière. Là-bas aussi, un amendement clair a été proposé pour réguler les cryptos.
Oui, alors c'est une proposition de loi bilatérale, c'est-à-dire qui est portée par deux sénateurs, Elizabeth Warren côté démocrate et Roger Marshall côté républicain. Et cet amendement, il vise à rendre beaucoup plus strictes les normes sur la lutte anti-blanchiment concernant la crypto. Et notamment à étendre toutes les normes du KYC, donc Know Your Customer, vous savez, tout ce qui nécessite d'identifier le consommateur, donc demander des cartes d'identité, par exemple, des adresses, etc. D'étendre ces exigences-là à finalement tous les acteurs de la crypto et pas seulement les plateformes d'échange comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça étendrait ce type d'exigence aux fournisseurs de portefeuille, aux mineurs, aux validateurs. Enfin, on se demande bien d'ailleurs comment ça, tout ceci pourrait fonctionner. Mais l'idée, c'est d'obliger l'intégralité des acteurs de la chaîne à participer à ces KYC et à cette lutte anti-blanchiment. On y retrouve aussi l'interdiction d'utiliser des mixeurs, vous savez, ces outils qui permettent d'effectuer des transactions de manière beaucoup plus anonyme sur les différentes blockchains. Et on y retrouve aussi des exigences concernant les informations à donner lorsqu'on effectue une transaction vers l'étranger de plus de 10 000 dollars. Donc là aussi, on se demande un peu comment ça pourrait fonctionner si on fait une transaction vers un portefeuille qui n'est pas identifié. Mais on sent bien là, depuis l'affaire FTX, une forme de volonté très forte, pour ne pas dire d'obsession du régulateur, sur ces sujets de lutte anti-blanchiment, pour aller chercher pas seulement les plateformes d'échange, mais carrément tous les autres acteurs. Et donc ça va bien sûr à l'encontre de la philosophie du monde crypto, et même de certaines réalités techniques. Finalement, quand je fournis un hardware, qui est un portefeuille par exemple, comme un ledger, je n'ai pas à prendre l'identité de mes utilisateurs. En réalité, je fournis simplement un produit physique.
Et pendant ce temps, les cryptos s'infiltrent quand même par des ports de plus en plus nombreux dans les infrastructures de paiement. PayPal s'allie à MetaMask, le wallet Ethereum le plus utilisé. Pourquoi ON ? Pourquoi ce partenariat et comment ce partenariat va-t-il engager l'un vis-à-vis de l'autre, PayPal et MetaMask ?
C'est un signal faible parce que MetaMask est le plus gros portefeuille décentralisé. C'est un portefeuille crypto de navigateur. On peut directement détenir soi-même ses crypto-monnaies dans un petit portefeuille qu'on peut installer par exemple sur Google Chrome ou encore Firefox. Et PayPal, qui est un acteur centralisé, qu'on ne présente plus, et qui propose aujourd'hui, on va dire, un pont entre les deux plateformes, puisque directement depuis votre navigateur, c'est-à-dire depuis MetaMask, vous pourrez vous connecter sur PayPal et vous pourrez acheter par exemple des Ethers qui vont arriver dans votre portefeuille. Et vice-versa, puisque vous pourrez transférer des actifs d'une plateforme, la plateforme centralisée PayPal, à un portefeuille décentralisé, MetaMask. À noter que PayPal ne propose pas dans tous les pays du monde d'acheter directement de la crypto-monnaie, mais que c'est arrivé il y a très peu de temps, il me semble que c'est il y a une ou deux semaines, au Luxembourg.
Et vous savez que les journalistes voient le mal partout. Ce partenariat entre PayPal et MetaMask, est-ce qu'il est porteur de risques quand même, Claire ?
Alors, il peut être porteur de risques, je dirais, réputationnels pour MetaMask, qui avait déjà eu un certain nombre de sujets dernièrement avec la communauté, notamment parce que ils avaient indiqué collecter les adresses IP de leurs utilisateurs, notamment lorsqu'il y avait réalisation de transactions. Et donc ça, forcément, ça avait fait beaucoup râler dans la communauté crypto parce que les utilisateurs n'avaient pas du tout envie de laisser leurs données personnelles, y compris les adresses IP, lorsqu'ils effectuaient un certain nombre de transactions. Donc on a depuis eu des communications de Consensys qui gère le produit MetaMask pour essayer de nuancer finalement toute cette collecte d'adresses IP. Et donc là, on peut se poser la question finalement dans le cadre de ce partenariat avec PayPal, quelles seront les données personnelles qui circuleront d'un côté et de l'autre, puisque PayPal va permettre finalement d'acheter de la crypto, mais derrière que cette crypto va être directement envoyée à votre wallet, votre portefeuille MetaMask. Ce qui veut donc dire qu'un acteur aura la connaissance finalement de votre identité et de l'adresse de votre portefeuille MetaMask. Et donc ça pose plusieurs questions. D'une part, la question de la priorité qu'on veut donner à ces données personnelles lorsqu'on utilise ce type de service. La réalité, c'est qu'on voit aussi beaucoup de gens aujourd'hui sur Ethereum finalement trouver ce qu'on appelle des ENS, donc indiquer carrément parfois ses noms et ses prénoms en lien avec leurs adresses de portefeuille MetaMask ou d'autres adresses Ethereum. On voit des gens qui publient aussi parfois leurs NFT sur les réseaux sociaux, indiquant aussi des liens avec leurs identités de cette manière-là. Mais on a toujours une partie de la communauté qui est très résistante à l'idée de laisser des données personnelles. Et donc, finalement, ces outils comme MetaMask, qui doivent adopter des stratégies aussi pour favoriser l'adoption, sont obligés de nouer des partenariats avec des acteurs financiers traditionnels et donc vont mécaniquement mécontenter cette communauté-là. Donc, il va y avoir un choix à faire en termes de stratégie, mais je ne suis pas sûre que ça se joue en faveur de la protection de la vie privée.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Claire Balva, experte crypto indépendante. Owen Simonin, à la tête de Meria désormais. Ex Just Mining, maintenant c'est Meria. Pourquoi changer de nom d'ailleurs, Owen?
Just Mining ne proposait plus de machines de mining depuis plus de 2 ans. Et Meria s'adresse pas uniquement aux particuliers, mais aussi aux petites, moyennes, grandes entreprises, institutions financières et les conseillers en gestion de patrimoine. Donc il nous fallait une nouvelle identité. Et pour le coup, le Crypto Meria est un arbre dont le bois sert énormément pour les constructions, et Beedle dans le monde de la crypto-monnaie. C'était à notre image qu'on a voulu partir sur ce nouveau nom.
Et voilà, Meria est toujours à la tête de votre chaîne YouTube, Hacheur, avec un H au début, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Claire d'être passée à nouveau en plateau, nous rendre visite. Bon retour, bonne soirée, bon week-end. Dans un instant, on va se rebrancher à la finance traditionnelle, comme aiment à la décrire les amateurs de crypto. La bourse en direct, le CAC 40 étant rempli d'un peu plus d'1% à une grosse demi-heure de la clôture. On va en parler juste après la pause. À tout de suite.